Ce que j'ai essayé de vous exposer jusqu'à maintenant est une espèce d'histoire très très peu orthodoxe de l'anthropologie, où j'ai établi, de l'anthropologie et de la frontière de l'anthropologie et de la psychologie, où j'ai d'abord voulu établir un contraste dans l'histoire de l'anthropologie qui pourrait, en disant qu'en fin de compte, il n'y a que deux grandes théories en anthropologie. Il y a les théories évolutionnistes, qui étaient les théories anthropologiques qui ont eu un succès dans le grand public. Les théories qui s'étaient développées dans l'enthousiasme des travaux de Darwin, mais qui, en fin de compte, quand nous regardons les méthodes et les théories qu'elles impliquent, n'ont rien à voir avec le darwinisme. Et la réaction contre cela, le diffusionnisme, basé sur un phénomène qui est un produit de l'évolution humaine, le fait que les humains sont créés par les messages qu'ils reçoivent tout autant que par leurs gènes. Et j'ai élargi ce terme diffusionnisme en allant beaucoup, beaucoup plus loin que les gens qu'on nomme normalement des diffusionnistes. En fait, qu'on m'intéresse très, très peu, en incluant des anthropologues culturels américains, même Durkheim, si vous vous rappelez. Je crois qu'on pourrait dire que 95% des anthropologues seraient des diffusionnistes, comme je l'entends. Et un des aspects que j'avais souligné, c'est que le sujet de l'anthropologie change. Avec les évolutionnistes, c'est la nature humaine qui est le sujet de l'anthropologie. Avec les diffusionnistes, ce n'est pas tellement les gens que l'intervalle qu'il y a entre les gens, c'est-à-dire les communications qui passent entre eux. Et le fait que cet espace est bizarre, d'une certaine manière, on ne sait pas trop où ça se trouve, sera une partie des sujets que j'essaierai de développer dans les cours à venir. Et le deuxième point que j'avais souligné, c'est que quoique les diffusionnistes se basent sur une idée de l'esprit humain tel qu'il est produit par l'évolution, qui est beaucoup plus exacte que celle des évolutionnistes. Néanmoins, dans les formulations extrêmes qui sont implicites dans la plupart de l'anthropologie, il y a une espèce de Big Bang qui aurait eu lieu, qui aurait fait que l'esprit humain, à cause de ses capacités de recevoir des messages, de les transmettre, de les amalgamer, de les mélanger, serait d'un ordre totalement différent de celui de l'esprit des autres animaux, ou même des primates les plus proches, comme les chimpanzés. Ça, c'était le premier contraste. Le deuxième contraste auquel j'ai touché très très brièvement était entre des théories qu'on pourrait dire structuraliste, et j'ai parlé un tout petit peu de Lévi-Strauss et de Piaget, qui se ressemblent dans cette idée qu'il y a quelque chose d'inné dans l'esprit humain, c'est une facilité de structure, c'est une nécessité de structurer l'information, mais j'ai aussi essayé de contraster l'attitude de Piaget et de Lévi-Strauss en disant que pour Piaget, l'être humain, et surtout l'enfant, parce qu'il parle naturellement, il parle des enfants, est un être isolé, un scientifique isolé qui a à découvrir le monde tout seul. Tandis que dans le cas de Lévi-Strauss, les gens sont déjà adultes. Il n'y a aucun développement ontologique. Donc le développement de l'enfant, de la création individuelle n'a aucune place. L'individu est simplement un endroit qui reçoit des messages venant d'ailleurs, qu'il transforme, assimile, etc. Cette espèce de contraste qu'on retrouvera souvent est quelque chose que de mettre ces deux aspects ensemble, c'est en fin de compte mettre le diffusionnisme et l'évolutionnisme ensemble, quelque chose qui est évidemment pas fait ni par Piaget ni par Lévi-Strauss, et quelque chose qui est désiré, et je ne dirais pas plus que désiré, par une série d'auteurs, de psychologues surtout, associés au psychologue russe Vygotsky, qui précisément voyait comme programme de rejoindre le développement ontologique de l'enfant, la manière dont l'enfant se développe et développe ses connaissances, avec le fait qu'il reçoit des connaissances venant d'autrui. Comment mettre ensemble ce développement individuel vu comme un développement psychique avec la position de l'individu dans l'histoire ou dans la culture. Et nous avons une série d'auteurs comme Michael Cole, C-O-L-E, ou plus récemment Barbara Rogoff, qui se voit dans la lignée de Vygotsky et de cet effort de mettre ensemble ces deux choses. Mais il faut dire que autant pour Vygotsky ou Cole ou Rogoff, cela reste un vœu pieux. Ils n'ont pas vraiment beaucoup, ils ne proposent pas grand-chose. Comment vraiment faire cela, ou l'étudier, ou même le penser théoriquement. Mais ce qu'ils veulent faire me paraît une bonne chose. Et alors, et un des buts vers lequel je veux me diriger. Mais pour continuer l'histoire, je crois qu'il faut continuer en voyant les critiques qui ont été faites autant de Piaget que de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est une manie de l'anthropologie de ne jamais examiner critiquement les théories anthropologiques. Les théories anthropologiques apparaissent et puis on les abandonne ou on laisse traîner. Et il y en a d'autres qui sortent. Mais l'anthropologie académique manifeste cette faiblesse à un point extraordinaire que les choses ne sont jamais suivies, les critiques ne sont jamais systématiques et donc tout reste un peu dans la pagaille. La seule critique systématique de Lévi-Strauss que nous peut-être trouver dans l'article de Dan Sperber réimprimé dans le bouquin Le savoir des anthropologues. À part ça, il n'y a rien de systématique. Et même Lévi-Strauss lui-même ne se critique jamais, ne réexamine d'une manière critique sérieuse jamais ses travaux depuis son origine. Par contre, c'est pas du tout ce qui s'est passé en psychologie, et la critique systématique des travaux de Piaget est à la base de ce qui se fait dans la psychologie développementale, cognitive, partout dans le monde. Et on pourrait dire que ces critiques commencent d'abord pour des raisons empiriques. Piaget travaillait en grande partie avec des enfants, commence avec des enfants en général, pas entièrement, mais presque uniquement, des enfants à partir de l'âge de 4 ans. Tandis que ce qui a été de plus en plus possible en psychologie développementale, c'est d'étudier les connaissances des enfants de plus en plus jeunes grâce à des techniques comme celles développées par Elizabeth Spelker, qui étudie les connaissances, les connaissances d'enfants et de bien d'autres d'ailleurs, à partir de 4 mois. Et alors, ce qui a été démontré énormément dans ces travaux, depuis les années 60, disons, c'est que presque tout ce que Piaget disait que les enfants ne savent pas, on peut démontrer qu'ils le savaient bien avant. Et on peut démontrer qu'ils le savaient bien avant. Et cette tendance pousse à des conclusions que beaucoup des choses que ce que Piaget considérait comme des constructions que l'enfant crée au fur et à mesure de sa vie doivent être d'une certaine manière innées. D'une certaine manière, cette critique s'est cristallisée avec une rencontre quelque peu théâtrale, pourrions dire, avec le linguiste Chomsky dans une très connue rencontre à Royaumont, où les théories piagétiennes ont eu à faire face à une critique qui suggérait que on ne pouvait penser le développement de l'enfant que si on prenait déjà en compte que l'enfant avait dans son cerveau des tendances innées à certaines espèces de connaissances. Les travaux de Chomsky, le travail de Chomsky est à l'origine une critique de la linguistique structurale. Vous savez, cette linguistique que Lévi-Strauss avait pris comme modèle et pour créer son anthropologie structurale qui était très fortement, presque complètement démolie par Chomsky depuis, pour toute une série de raisons, mais peut-être les plus importantes, c'est que pour Chomsky, la linguistique doit non être une description formelle de la langue, mais avoir comme but de comprendre comment la personne peut parler et comprendre. Donc, la critique de Chomsky transforme la linguistique en une science psychologique, et en fin de compte, les travaux de Chomsky ont mené à ce qui est maintenant une discipline extrêmement qui se développe très très vite, en s'éloignant d'ailleurs beaucoup de Chomsky, la psycholinguistique. Mais la conclusion centrale de Chomsky est que il est impossible que l'enfant apprenne à parler, apprenne la langue, s'il n'avait pas, en tant qu'être évolué, déjà une tendance, une préorientation au langage humain. On peut démontrer ça de différentes manières, dont je ne vais pas parler, mais ce qui fascine Chomsky, et ce qui fascine, disons, tous les psycholinguistes, c'est la rapidité extraordinaire que les enfants ont à apprendre le langage, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre s'ils n'étaient pas déjà, en tant qu'être humain, si vous voulez, formés ou prédisposés au langage. Et la vitesse à laquelle les enfants apprennent le langage est bien documentée. Je vais donner un de ces aspects les plus triviaux, mais qui est tout de même assez frappant, c'est que au moment du développement le plus rapide de l'enfant, de l'apprentissage du langage, il apprend 20 nouveaux mots par jour. les enfants apprennent un mot qu'ils ont entendu une fois, ils n'oublient pas et savent plus ou moins comment l'utiliser. C'est un phénomène qui est extraordinaire, que l'on ne peut expliquer, selon Chomsky, il a sûrement raison, à ce niveau très général, que si on pense à l'enfant ayant une prédisposition au langage. Quelque chose qui est totalement différent des théories de Piaget, pour qui ce petit scientifique isolé a tout construire de lui-même à travers l'observation du monde qui l'entoure. Il faut dire que dans toute cette controverse Chomsky-Piaget, il y a beaucoup de caricatures. Ce n'est pas entièrement vrai que la linguistique structurale était purement descriptive et ne s'intéressait pas aux problèmes psychologiques, mais enfin, c'est comme ça que ça a été présenté. Ça n'est d'ailleurs pas entièrement vrai que Piaget ne pouvait pas accommoder des aspects innés dans la manière dont il envisageait l'apprentissage du langage. Mais enfin, ça n'a pas eu beaucoup d'importance. Mais les implications philosophiques et psychologiques de la critique chomskienne de Piaget sont immenses. Si on revient au contraste dont je vous avais parlé au départ, nous avons l'air de revenir vers une étude anthropologique qui implique que notre sujet est la nature humaine, ce n'est plus les intervalles entre les personnes, et en particulier, en relation avec la théorie du Big Bang, comme je vais l'appeler, la théorie chomskienne a deux faces. D'un côté, elle dit les humains sont totalement différents des autres animaux parce que ce sont les seuls qui possèdent, qui ont cette prédisposition innée pour le langage. Mais par contre, elle suggère un lien avec les autres animaux parce que tout le monde a toujours présumé dans la psychologie animale que les animaux avaient des connaissances et avaient des prédispositions pour des connaissances innées. Et cela devient très clair quand nous voyons que, à la suite de la proposition de Chomsky et des nombreuses données empiriques qui l'ont conforté, toute une série d'autres modules, parce que je vais les appeler maintenant par le terme qui a été utilisé, sont très rapidement proposés. Parce que, pour la même raison que celle donnée par Chomsky, quand on observe l'apprentissage de l'enfant, on ne peut être frappé par la rapidité à laquelle l'enfant commence à connaître, disons, les autres personnes, à comprendre comment on peut interagir, commence à dire reconnaître des individus dont le visage change de moment en moment, commence à avoir des compréhensions de physique naïve, que les objets tombent vers le bas plutôt que vers le haut, etc. Que donc, il est tout à fait évident que, si vous pensez à un nouveau-né, un cheval nouveau-né, il a des connaissances botaniques, des connaissances physique qui lui permettent très rapidement de s'adapter à son environnement avec une rapidité de quelques heures. Et que si l'on pense de cette manière aux humains, si on pense, passons disons de notre bébé cheval à un bébé humain, en commençant à penser que le bébé humain n'est pas tellement différent, ou en tout cas il est probable qu'il ne soit pas tellement différent que s'il a une prédisposition au langage, il a peut-être aussi une prédisposition à la physique, comprendre la différence entre les liquides et les solides, comprendre qu'un solide ne peut pas passer à travers un autre, une espèce de psychologie naïve qui lui permet des interactions avec d'autres êtres humains, etc., etc., que donc le bébé humain est né avec toute une série de prédispositions pour des savoirs très spécifiques. C'est pour ça que je disais que, quoique la théorie de Chomsky suggère que les humains sont uniques parce qu'ils ont cette prédisposition pour le langage, l'idée que le nouveau-né est né avec des prédispositions rejoint les humains aux autres animaux plutôt que les sépare, et donc nous ramène vers le genre de théorie qui prennent comme centre la notion de nature humaine. Naturellement, nous sommes très loin des idées diffusionnistes, d'une certaine manière, en parlant de la manière que je viens d'utiliser, c'est un peu comme si nous étions revenus vers l'enfant isolé de Piaget. Et avant de considérer ce que cela veut dire, je voudrais tout de même vous exposer d'une manière un peu plus systématique ce qui a suivi de la position chomskienne en psychologie avant de considérer ses implications anthropologiques. Et donc, je reviens un peu sur ce que je disais. Ce que Chomsky propose donc, c'est que l'enfant est né avec une prédisposition innée pour le langage, et ce que toute une série d'autres auteurs commencent à suggérer, c'est qu'ils commencent à faire une liste de prédispositions innées pour différents domaines de connaissances. J'ai utilisé deux mots, module et domaine. Je vais vous expliquer dans un moment quelle est leur relation. Mais quels sont ces domaines de connaissances? Eh bien, je vous les ai suggérés. Une physique naïve qui fait que l'enfant aurait des prédispositions à comprendre les lois de base de la physique telles qu'elles sont implicites dans le monde qui nous entoure. Je vous ai dit qu'un solide ne peut pas passer à travers un autre, qu'il y a une différence entre les solides et les liquides, des lois de la gravité à un certain point, etc. Que les enfants, à un très 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 jeune âge, probablement dès la naissance, ont d'une certaine manière comprennent déjà, ce que l'on peut démontrer par le fait qu'ils sont étonnés quand ces phénomènes sont violés. Par exemple, si on montre à un enfant de 4 mois un objet qu'on lâche dans l'air et qu'au lieu de tomber vers le bas, il remonte vers le haut, l'enfant regardera beaucoup, beaucoup plus longtemps que si l'objet tombe vers le bas. Donc, d'une certaine manière, on peut dire, et noter cette phrase, d'une certaine manière, on peut dire qu'il sait déjà quelque chose à propos de la gravité, des lois de la gravité. Donc, physique naïve, biologie naïve, qui comprend que les êtres animés sont différents des objets non animés. Quoique cela était un peu ambigu, mais ça aussi c'est sur quelque chose sur lequel je vais revenir. Peut-être beaucoup plus important, une psychologie naïve, que très très rapidement l'enfant comprend que les autres humains agissent en des termes qu'il apprend très rapidement, et d'autres choses qui sont plus faciles, c'est-à-dire la reconnaissance des visages, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, qu'un enfant reconnaît très rapidement les gens quand les visages n'arrêtent pas de changer, et ça après 3 ou 4 jours, etc. Donc nous avons une vue de l'enfant qui a toute une série de connaissances particulières qui sont d'une certaine manière envisageables que comme séparées. Parce que une connaissance qui recouvrerait les principes de tous ces différents domaines serait d'une complexité extraordinaire. Que l'enfant puisse utiliser son esprit pour reconnaître les visages, pour comprendre la différence entre 2 et 3, ce que les enfants font extrêmement à un âge très très jeune. Tout ça, c'est presque inenvisageable. Donc il y a cette idée que l'esprit humain est divisé en différents modules qui seraient innés. Les domaines sont ce à quoi ces modules se réfèrent. Et donc on peut imaginer que certains domaines de connaissances peuvent s'organiser intérieurement sans nécessairement être basé sur une module innée. Par exemple, les connaissances de la conduite automobile se développent et se forment, et forment un espèce de domaine de connaissances organisé dans l'esprit adulte, mais personne n'a jamais suggéré que les humains sont nés avec une module pour la conduite automobile. Mais par contre, celles que je viens de nommer paraissent, ou en tout cas, on pourrait croire qu'elles sont innées. Reprenons la liste. Probablement 2 des plus importantes au sujet desquelles je vais parler dans la leçon la semaine prochaine sont cette psychologie naïve et une module pour ce que l'on appelle la morale, mais je reviendrai là-dessus, qui est étroitement liée à la psychologie naïve. D'autres qui nous intéressent moins, en tant qu'anthropologue, comme par exemple la reconnaissance des visages, d'autres qui nous intéressent beaucoup parce qu'elles suggèrent un contenu très très précis, c'est-à-dire que tous les humains sont nés pour comprendre ces choses, comprendre les animaux, les êtres vivants d'une manière particulière, de comprendre la physique et la causalité d'une manière particulière, les mathématiques extrêmement simples, les idées de nombre, que les humains sont, par leur héritage génétique, destinés à comprendre, en tout cas à un certain niveau, l'idée de nombre d'une manière particulière, etc. Donc, avec ce qui se développe à la suite de Chomsky, nous avons une espèce de prolifération de suggestions, de domaines basés sur des modules que l'enfant humain connaît d'une certaine, ou en tout cas est prédisposé à connaître, et non seulement à connaître, mais à connaître d'une manière très très particulière. Si vous voulez voir la floraison de ce moment dans le développement des idées, le livre édité par Hirschfeld et Gauman, Mapping the Mind, à la suite d'une conférence Fissen ici à Paris, démontre, si vous voulez, le moment le plus fort de ce genre d'attitude. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour l'anthropologie? Et là, nous commençons à avoir quelques difficultés. Et je voudrais vous montrer les différentes manières dont ce genre de choses peuvent être pensées. La première réaction pourrait être que qu'est-ce que les anthropologues professionnels ont tendance à faire? Ben, c'est à suggérer la variation culturelle. Si vous voulez, ce que les anthropologues vendent au public en général, c'est que les différentes cultures sont différentes. Elles sont beaucoup plus différentes qu'on ne l'aurait pensé, que les gens en général ont tendance à ne pas les voir suffisamment dans leur spécificité, et que donc, comme je vous avais dit dans une des premières leçons, ils peuvent accuser le public en général et les autres scientifiques du crime d'ethnocentrisme, c'est-à-dire d'essayer de voir des cultures qui ont une rationalité totalement différente en leurs propres termes. Donc, soyons simples, ce que les anthropologues soulignent, c'est la variation culturelle. Par contre, on pourrait dire, si vraiment les membres de l'espèce Homo sapiens sapiens sont nés avec une prédisposition à comprendre la causalité d'une certaine manière, à comprendre les bases de la physique d'une certaine manière, à comprendre les mathématiques d'une certaine manière, à comprendre autrui d'une certaine manière, l'esprit d'autrui d'une certaine manière, à comprendre les animaux d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour cette variation culturelle. Et on peut accuser les anthropologues d'avoir abusé du public en exagérant d'une manière outrancière la variation culturelle. Alors, si vous voulez voir ce genre de position, exprimée d'une manière la plus extrême, comme une accusation des sciences sociales par un auteur qui dit que, en fin de compte, les sciences sociales, mais surtout les anthropologues, ont vendu un immense mensonge à l'humanité en leur faisant croire que la culture, que les êtres humains varient d'une manière fondamentale grâce à la culture. Le message diffusionniste, si vous voulez, à son extrême. Vous pouvez vous tourner vers un livre en anglais par le psychologue Steven Pinker. Qui en anglais s'appelle The Blank Slate. C'est-à-dire la tabula rasa, la théorie de la tabula rasa, en disant, les anthropologues nous ont dit que l'être humain à sa naissance est un individu qui ne sait rien, qui apprendra sa manière de voir le monde des gens avec qui il se trouve. La thèse diffusionniste à son plus clair, que les humains sont totalement différents des autres animaux, mais qu'en fin de compte, c'est pas vrai. Et c'est une accusation de vraiment avoir extrêmement violente, qui s'adresse tout autant d'ailleurs à Piaget qu'aux anthropologues ou aux piagétiens. Et alors, là vous voyez, si vous voulez, les implications anthropologiques du modularisme présentées dans une forme totalement extrême, dans une espèce de conflit qui existerait dans le monde moderne entre les anthropologues diffusionnistes menés aux relativistes, aux politiquement corrects, parce que tout ça, ça va ensemble pour Steven Pinker. Une espèce d'immense mensonge qui serait promulgué et qui refuse de reconnaître que ce que nous savons maintenant, c'est que les enfants naissent avec toutes leurs connaissances de base, avec des prédispositions pour toutes leurs connaissances de base qui font qu'ils comprendront le monde de la même manière, quoi que ce soit leur culture, quoi que soit le moment dans l'histoire, et cela en particulier pour les connaissances de base. Alors, naturellement, même Steven Pinker, professeur à Harvard, ne va pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de différence culturelle, mais pour lui, les différences culturelles sont superficielles, sont une espèce de surface sans grande importance, tandis que les connaissances de base sur la causalité, sur la personne, sur la notion de relation sociale, tout ça sont basées sur des capacités innées, et donc il n'est pas possible que les aborigènes australiens pensent très différemment des Chinois du XVe siècle ou des Américains du XVIIIe à propos de ce qu'est un animal, ce qu'est une personne, que leurs idées de morale varient et tout ça. Donc une négation fondamentale de ce que l'anthropologie enseigne depuis un siècle. Le problème de cette position extrême est qu'elle mène inévitablement à cette idée de deux niveaux dans les connaissances humaines. Il y aurait un niveau fondamental qui d'ailleurs ne serait presque tout entièrement implicite parce que ces connaissances étant données dans notre nature et dirigées par nos gènes n'auraient pas besoin d'être jamais exprimées. Donc toutes ces connaissances seraient totalement implicites et inchangeables. Et il y aurait un autre niveau complètement séparé de connaissances superficielles et amusantes. Là, je me permets de caricaturer Pinker, mais qui serait d'un autre ordre et qui serait souvent explicite, qui tout de même expliquerait que peut-être il y a des gens dans le monde qui par exemple, n'est pas le même genre de calendrier que nous, mais ça ne voudrait pas dire, par contre, leurs idées sur le calendrier n'auraient rien à voir, par exemple, avec leur conceptualisation du temps, et que ce que la tricherie que les anthropologues auraient voulu la tricherie avec laquelle ils auraient voulu nous tromper serait de faire croire que parce que les Chinois ont par exemple un calendrier différent, ils pensent le temps différemment. Non, dirait Pinker, et je vais revenir sur cette question en particulier dans une leçon à venir. Non, dirait Pinker, ils pensent le temps exactement comme nous, mais ils ont un calendrier différent. Bon, ça, c'est pas, ça fait pas grande différence. Si on décidait d'avoir à la Révolution, le calendrier a changé, ça ne veut pas dire que les gens ont pensé la temporalité d'une manière différente. Mais les anthropologues ont prétendu que parce que au moment où les historiens, il y a plein d'écrits d'historiens qui disent ce genre de choses, parce que le pouvoir révolutionnaire a changé le calendrier, la mentalité des gens a changé. Ça, c'est la tromperie que Pinker souligne comme venant directement de l'inspiration qui se remonte à ce qu'on pourrait dire la découverte de Chomsky. Vous voyez, on est passé par du stage « Le langage est inné », donc beaucoup d'autres connaissances sont innées, donc les mentalités, donc la culture ne peut être qu'une petite croûte superficielle sur un fondement inchangeable. Mais la critique, et il ne faut pas oublier qu'avant de commencer à critiquer ce genre de position, il ne faut pas ignorer sa force. Elle n'est pas simplement une théorie vague ou même non examinée comme les théories psychologiques et cognitives implicites de l'anthropologie. Parce qu'en général, les théories psychologiques et cognitives de l'anthropologie ne sont même pas raisonnées, mais simplement traînent dans les implications de ce qui est dit. Les théories sur ce quoi se base Pinker, pas tellement Pinker lui-même, mais sur les gens à qui il fait référence, c'est un immense travail psychologique, sur le développement psychologique des enfants, qui montre de plus en plus que, comme je vous disais, et à l'encontre de ce que pensait Piaget, le nouveau-né ou l'enfant, le très jeune enfant, a déjà beaucoup, beaucoup plus de connaissances que l'on n'aurait jamais pu le penser, et bien avant qu'il puisse être influencé par une culture particulière. Donc, j'ai quelque chose de vraiment très, très, très puissant dans cette idée, que si il est vrai que l'enfant, disons, de 9 mois, a déjà développé les bases de ces théories de causalité, les bases de ces théories psychologiques, les bases de sa compréhension sur ce qu'est une relation sociale, les bases de ses idées sur ce qu'est un animal, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, etc. Après 9 mois, qui est le moment où on pourrait croire que des théories culturelles peuvent être transmises au bébé, il n'y a plus beaucoup de place pour autre chose que des petits détails. Mais le problème qui est assez rapidement apparu dans ce genre de pensée ou dans ce genre de travail, c'est que c'est la manière statique dont le développement de l'enfant est pensé. Un peu comme chez Lévi-Strauss, comme je vous disais, chez Lévi-Strauss, il n'y a que des adultes. Il n'y a aucune idée de la création du processus cognitif qui marque l'enfant et d'ailleurs l'adulte aussi. C'est un développement continu. Et que ce qui a très peu de place dans les théories de Pinker, c'est que il imagine que quand quelque chose est là, déjà, disons, c'est l'enfant de 4 mois, ça va rester inchangé pendant tout le long de la vie de l'individu. tandis qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc, si nous acceptons les bases de ce que dit Pinker, mais que nous pensons que ce que nous avons à faire, c'est comprendre comment ces bases sont des bases pour un apprentissage continu, la relation entre, si vous voulez, ce qui est inné et ce qui est appris devient beaucoup plus compliquée et doit être pensée en termes du développement cognitif ou de l'enfant. Je vais vous donner un exemple comment ce genre de choses se manifeste quand nous prenons un exemple d'une de ces modules et de son domaine associé qui a eu particulièrement d'importance dans l'histoire récente de l'anthropologie. Et pour cela, je vais me tourner vers les discussions sur la biologie naïve. La biologie naïve a été très très vite suggérée comme un de ces domaines pourquoi l'enfant a une prédisposition dès la naissance. Car il est assez frappant de voir que très rapidement, le bébé commence à comprendre que les êtres vivants, en tout cas les animaux, je ne vais pas parler de plantes maintenant, les animaux se comportent d'une certaine manière, et très 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 vite, ils comprennent qu'ils doivent avoir besoin de manger, qu'ils peuvent mourir, qu'ils ont une essence, d'une certaine manière, qui est très différente, disons, des objets manufacturés. Et donc, très rapidement, un anthropologue, Scott Atran, je vais écrire le nom, a suggéré dans une série d'écrits, mais très caractéristiquement dans cette collection d'articles de Mapping the Mind, que la biologie naïve était une de ces modules avec un domaine particulier que l'enfant humain était prédisposé, que l'enfant humain était donc prédisposé à comprendre les animaux d'une manière particulière. Et pour ça, il était conforté par des travaux complètement indépendants de toutes ces questions qui avaient déjà été faits par un anthropologue américain, Brent Berlin, qui avait étudié la manière dont une série de populations dans le monde classaient les plantes et les animaux. Et Berlin, qui à l'origine n'était pas particulièrement, ne basait pas ses travaux sur des théories générales particulières, avait tout de même été frappé par à quel point les taxonomies biologiques se ressemblaient et dans leur contenu et dans la forme. Surtout dans la forme, d'une manière très très intéressante, Berlin avait suggéré que la notion d'espèce était universelle, parce qu'il l'avait retrouvée dans toute une série de populations complètement distinctes. Donc, nous ne parlons pas donc de la notion d'espèce scientifique, mais une notion d'espèce naïve, quoiqu'elle ressemble fortement à la notion d'espèce scientifique, d'une classe disons, d'animaux qui, quoique chaque individu varie, partage une espèce, qui la distingue complètement d'autres animaux, même si ces animaux, à premier abord, paraissent se ressembler, mais qu'il y a une notion bien claire d'un groupe d'animaux qui, entre eux, se reproduisent et qui ne peuvent pas se reproduire avec d'autres, qui, même s'ils ont des apparences totalement différentes, sont tout de même de la même espèce. Par exemple, un spécimen albino sera considéré, bon, comme un spécimen, comme une bizarrerie de l'espèce, mais tout de même d'appartenant à l'espèce. Et que aussi, ce qui avait frappé Berlin, c'était que la notion d'espèce se posait en général au milieu de d'autres niveaux de classification qui étaient toujours au milieu, si vous voulez. Donc il y avait la notion d'espèce là qui divise les animaux. C'est à peu près au-dessus, il y avait des classes plus générales, comme, si vous voulez, dans le discours scientifique des mammifères, dans le discours populaire des animaux, les poissons, etc. Au-dessus, encore, des classes souvent non nommées, comme animaux contre plantes. En dessous, il y a des sous-espèces. Mais que cette notion d'espèce était un ancrage de la classification, que si on demande aux gens qu'est-ce que c'est que ce petit animal, ils vous disent toujours un chien, à part si on est naturellement à une exposition de différentes races de chiens, on ne vous le dira pas, c'est un chien quand on demande quel est cet animal, mais normalement, on dit toujours un chien, que ce niveau biologique se retrouve partout, que donc il y a des régularités extrêmement fortes dans la notion d'espèce. Et alors, reprenant ce genre de travaux, reprenant le fait que les espèces choisies sont presque toujours les mêmes, et allant fortement à l'encontre de beaucoup de travaux anthropologiques que Berlin a pu assez rapidement démontrer, était très superficiel, il a pu suggérer que les bases du savoir biologique étaient universelles. Donc, Atrein reprend ce genre de travaux et en disant, ben, voilà pourquoi, voilà un exemple de ce qui doit être une module, un module lié à un domaine particulier qui est inné à l'espèce, pour l'espèce humaine, et qui explique pourquoi il n'y a pas de variation culturelle. Et repris encore par Pinker, qui démontre comment ce que les anthropologues avaient prétendu être des variations dans la compréhension, par exemple, du monde animal, sont en fin de compte simplement des superficialités. Mais vous voyez la manière dont tout cela est pensé. Nous avons une représentation fixe. Il y a l'idée que l'enfant a cette prédisposition pour voir le monde animal comme ça. Ça ne fait rien ce qu'il apprend après. Cela restera absolument comme une base. Les autres choses, peut-être qu'il y aura des idées animistes, des choses comme ça, mais ça restera des petits en plus, des petites fioritures au-dessus de sa base de la compréhension de la biologie qui n'ont aucune influence sur ça. Mais depuis ces travaux, toute une série de travaux par des psychologues tels que Frank Kyle et de Susan Carey en particulier, qui commencent à étudier qui étudie le développement chez l'enfant des compréhensions du monde animal, ces psychologues découvrent que, d'accord, l'enfant commence avec toute une série de connaissances qui vraiment se ressemblent beaucoup et qui sont très très peu influencées par la culture, mais qu'au cours du développement, cela se remanie, retransformer d'une manière beaucoup beaucoup plus fondamentale que n'aurait envisagé Atran ou Pinker. Et toute une série d'anthropologues, de psychologues qui se voient travaillant dans la lignée de ce qui a suivi des découvertes modularistes qui elles-mêmes ont suivi les travaux de Chomsky, commencent à comprendre le développement de l'enfant comme une redéfinition continue des connaissances de base. Donc, une question extrêmement importante pour la psychologie, qui inévitablement est une question absolument centrale pour l'anthropologie, est comment penser sur cette transformation qui a lieu au cours du développement de l'enfant sur la base des modules, même si on accepte leur existence. Nous voyons maintenant beaucoup plus ces modules comme des mécanismes qui permettent d'apprendre et qui permettent d'apprendre de toute une série de différentes manières qui redéfinissent leur contenu. Deux auteurs sont particulièrement importants. Carey, j'en parlerai, Susan Carey, dans un article, dans l'article qu'elle a écrit avec Elizabeth Spelka dans Mapping the Mind, qui montre déjà toute une série de questionnements sur le modularisme simple à la Atran, et une autre psychologue du développement, Annette Carmiloff-Smith, dans un livre qui, je crois, n'est pas traduit, mais est en cours de traduction en français, qui s'appelle Carmiloff. Smith. Annette Carmiloff-Smith avait travaillé beaucoup avec Piaget et était une jeune chercheuse quand Piaget était vieux, et donc d'une certaine manière a été obligée de prendre en compte les découvertes modularistes qui ont suivi après, mais qui a gardé des théories piagétiennes, l'attention sur le processus de développement continu chez l'enfant. Le livre de Carmiloff-Smith est Beyond Modularity. Alors, je vais reprendre ces thèmes, pas en passant trop de temps sur la biologie naïve, parce que c'est un peu éloigné de nos intérêts, mais en prenant en compte plutôt la psychologie naïve, pour voir comment le genre de questions qui suivent de ces développements, comment la signification de ce genre de questions pour l'anthropologie. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de reprendre les thèmes théoriques auxquels je commence à toucher, avec des exemples plus précis, pour ces deux domaines, la psychologie naïve et la question de la morale. Voilà.